VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Le Monde Aujourd'hui, édition spéciale consacrée à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Vladimir Poutine a autorisé tôt ce matin une opération militaire. Nous sommes le jeudi 24 février 2022. Jean-Roger Dion à ce micro. Bonsoir à tous et bienvenue. Le président russe Vladimir Poutine a lancé ce jeudi une invasion de l'Ukraine avec frappe aérienne et entrée de forces terrestres depuis plusieurs directions. Les autorités ukrainiennes font déjà état d'une cinquantaine de morts, dont une dizaine de civils. Le point avec Nani Talani.
Dans un discours tôt ce matin à la télévision nationale russe, Vladimir Poutine a lui-même annoncé une opération militaire dans la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine. Une série d'explosions ont été entendues dans la plupart des grandes villes ukrainiennes. Les centres de commandement militaire de l'Ukraine à Kiev, Kramatorsk et Kharkiv dans le nord-est ont été frappés par des missiles. Des soldats russes ont débarqué dans les villes portuaires d'Odessa et de Mariupol dans le sud du pays, selon des médias ukrainiens. Le ministère russe de la Défense dit avoir neutralisé les bases aériennes ukrainiennes et ses systèmes de défense aérienne. M. Poutine a exhorté les forces ukrainiennes à déposer les armes et rentrer chez elles, affirmant que toute responsabilité pour un éventuel bain de sang va reposer entièrement sur la conscience du gouvernement ukrainien. Il affirme que l'opération ne vise pas l'occupation de l'Ukraine, mais veut défendre les séparatistes qui, selon lui, subissent depuis 8 ans la persécution et le génocide par le régime de Kiev. Pour cela, nous viserons la démilitarisation, la dénazification de l'Ukraine et la poursuite en justice de ceux qui ont commis de multiples crimes contre des civils, y compris des citoyens russes, a-t-il promis. Il menace les pays qui tenteraient d'interférer avec des conséquences qu'ils n'ont jamais vues.
Réaction en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a appelé jeudi à l'unité européenne et à de nombreuses interventions pour aider l'Ukraine attaquée par la Russie. Rosine Munizero.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a comparé l'invasion russe de l'Ukraine aux agissements de l'Allemagne nazie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le monde doit créer une coalition anti-Poutine pour contraindre la Russie à la paix, a déclaré jeudi le président ukrainien à l'issue d'entretiens avec les dirigeants américains, britanniques, français et allemands. Le monde doit contraindre la Russie à la paix, a-t-il ajouté. Il a donné l'ordre à ses troupes d'infliger le maximum de pertes aux militaires russes qui ont envahi son pays, a indiqué sur Facebook le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, le général Valery Zaloujny. L'armée ukrainienne a affirmé jeudi avoir tué une cinquantaine d'occupants russes dans la région de Lugansk, dans l'est du pays. Chez les Ukrainiens de la région, préparés par 8 ans de conflit armé avec les rebelles séparatistes pro-russes, dans ce scénario catastrophe, chacun affirme savoir ce qu'il a à faire. S'ils continuent de nous bombarder, je vais trouver des armes et défendre ma patrie, peu importe si j'ai 62 ans, menace Vladimir Levachov, habitant de la région.
Les États-Unis ont condamné l'invasion de l'Ukraine, une attaque injustifiée selon le président Joe Biden qui doit annoncer aujourd'hui une autre série de sanctions contre la Russie. Les précisions de Mohamed Oumfa.
Dans une première réaction la nuit dernière, le président américain a dénoncé une guerre préméditée qui va entraîner des souffrances et pertes humaines catastrophiques. Ce matin, Joe Biden a réuni ses conseillers à la sécurité nationale pour évaluer la situation. Auparavant, il s'est entretenu avec ses homologues du G7. Il doit annoncer une nouvelle tranche de sanctions contre la Russie. Son d'ores et déjà sanctionné par Washington, l'entreprise russe chargée d'exploiter le gazoduc Nord Stream 2, un investissement d'environ 11 millions de dollars, mais aussi 2 banques publiques russes et 5 oligarques proches du président Poutine qui voient leurs avoirs gelés et se retrouvent interdits de toute transaction avec des entités américaines. Les Américains ont par ailleurs décidé de couper l'accès du gouvernement russe au marché international de la dette souveraine. Joe Biden a déjà fait savoir qu'il n'excluait pas de sanctionner financièrement Vladimir Poutine lui-même et qu'il envisageait aussi d'interdire l'exportation vers la Russie de technologies américaines. Les États-Unis ont aussi laissé entendre qu'ils pourraient couper l'accès de la Russie aux transactions en dollars, la devise reine des échanges mondiaux.
Cette invasion de l'Ukraine déclenchée par le président russe a suscité aussi une vague de condamnations à travers le monde. Le point avec Claire Morin-Gibou.
Le Premier ministre britannique Boris Johnson, proche allié des États-Unis, a condamné des événements horribles et a qualifié Vladimir Poutine de dictateur. C'est l'atteinte la plus grave à la paix, à la stabilité dans notre Europe depuis des décennies, a déclaré le président français Emmanuel Macron, qui a assuré que la France et ses alliés seraient sans faiblesse. L'Union européenne condamne fermement cette attaque. Les 27 préparent un nouveau train de sanctions plus sévères contre la Russie. L'Iran affirme que la crise ukrainienne trouve ses racines dans les provocations de l'OTAN, même si le pays dit ne pas considérer la guerre comme une solution. Cependant, la Chine dit comprendre les préoccupations raisonnables de la Russie en matière de sécurité. Pour le moment, il y a peu de réactions officielles sur le continent africain, à part l'Afrique du Sud, qui appelle au retrait immédiat des forces russes en Ukraine.
Le Vatican estime que des négociations sont encore possibles pour trouver une solution pacifique quelques heures après l'attaque de l'Ukraine par les troupes russes. Il y a encore de la place pour l'exercice d'une sagesse qui protège les aspirations légitimes de tous et épargne le monde de la folie et des horreurs d'une guerre, a déclaré le cardinal Pietro Parolin, le secrétaire d'État et numéro 2 du Vatican. Le pape François a déploré mercredi les scénarios de plus en plus alarmant qui se profile en Ukraine et menace la paix de tous. L'impact à présent de la crise ukrainienne sur l'économie, les marchés mondiaux ont été pris dans une tempête après l'invasion de l'Ukraine, avec une chute dans les places boursières, une flambée des matières premières, avec la crainte qu'une guerre en Europe qui va perturber l'approvisionnement énergétique dans le monde. Les détails avec Ginny Kapumbu-Villa.
La bourse de Moscou s'est effondrée de plus de 30%. La bourse de Paris a perdu 4,62%. Wall Street a suivi la même tendance à la baisse. Le blé a battu des records avec un pic inédit à 344 euros la tonne, une hausse de 15,68% parce que l'Ukraine est un gros producteur mondial de blé et de maïs. Le prix de pétrole a dépassé les 100 dollars le baril. La Russie est l'un des premiers producteurs de gaz et de pétrole, ce qui affole les investisseurs quant à d'éventuelles ruptures d'approvisionnement en hydrocarbures. Les sanctions que s'apprêtent à prendre les pays occidentaux contre la Russie vont limiter considérablement son accès aux marchés européens et américains, a averti jeudi le ministre allemand de l'économie Robert Habeck. Berlin a déjà suspendu cette semaine la mise en service du nouveau gazoduc stratégique Nord Stream 2, reliant la Russie à l'Allemagne, qui est fortement dépendante du pétrole russe, qui compte pour 35% de ses importations de cette matière fossile. Mais il existe une réserve nationale de pétrole qui permet de se passer d'importation pendant 90 jours.
Pour sa part, l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord, annonce qu'elle va prendre de nouvelles mesures pour renforcer sa capacité de dissuasion et de défense. Elle convoque un sommet extraordinaire demain vendredi. Yacouba Ouedraogo nous en dit plus.
Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, affirme que ces nouvelles mesures permettront de déployer des capacités et des forces, y compris la force de réaction de l'OTAN, dans les pays d'Europe de l'Est. Cette force de réaction compte 40 000 soldats. Ces mesures resteront défensives, d'après M. Stoltenberg, qui rappelle qu'aucun soldat de l'OTAN n'est présent en Ukraine, le pays n'étant pas membre de l'Alliance. Nous ne prévoyons pas de dépêcher des troupes de l'OTAN en Ukraine, précise le SG de l'organisation. Selon le ministre slovaque des Affaires étrangères, Ivan Korkov, l'OTAN prévoit de mettre en place des bataillons multinationaux sur son flanc est, y compris en Slovaquie. L'Alliance a réitéré dans un communiqué que les mesures envisagées sont et resteront préventives, proportionnées et sans escalade. Jens Stoltenberg a aussi annoncé qu'un sommet extraordinaire des dirigeants des 30 pays membres de l'Alliance est prévu demain vendredi en visioconférence.
Merci Yacouba. La Russie a donc lancé une offensive militaire en Ukraine malgré les mises en garde des Occidentaux et d'intenses efforts diplomatiques ces dernières semaines. Qu'est-ce que cela signifie pour l'OTAN et les Occidentaux? Abdourahman Dia a posé la question à Herman Cohen, ancien diplomate américain.
La diplomatie a échoué. Les États-Unis, d'autres pays de l'Ouest, ont dit à M. Poutine que s'il fait une invasion, il y aura des conséquences très dures dans le domaine économique. Mais M. Poutine a ignoré ça. Il a fait l'invasion. Je crois qu'il cherchait une garantie que l'Ukraine sera jamais dans l'OTAN. Je crois que personne ne veut que l'Ukraine va dans l'OTAN, mais on ne peut pas donner des garanties.
Donc vous pensez que ce serait vu comme un signe de faiblesse de la part de l'OTAN de donner des garanties dans ce sens à la Russie?
Moi, personnellement, je ne crois pas que ce soit un signe de faiblesse. Oh, par exemple, s'il y avait une interview d'un journaliste avec le président de l'Ukraine, il a demandé « Est-ce que vous voulez être membre de l'OTAN ?» Et le président pouvait dire « Pour le moment, en fait, on ne va pas faire la demande. Mais nous avons le droit de faire la demande dans l'avenir. Mais pour le moment, non. C'est le nécessaire pour Poutine. » Vous voyez, l'OTAN ne sera pas dans l'Ukraine. Mais ils ont refusé de faire ça. Je ne comprends pas pourquoi.
Alors maintenant, que peut faire l'Occident ou l'OTAN face à cette nouvelle situation?
L'Occident, président Biden a promis d'appliquer des sanctions très dures dans le domaine économique et il a déjà commencé.
Mais on ne craint pas de risque de confrontation militaire directe entre l'OTAN et la Russie, ou bien il y a un risque?
Il y a toujours un petit risque, par exemple s'il y a un accident, mais je ne crois pas. Ni la Russie ni les États-Unis veulent faire la guerre. Ce sera trop dangereux parce que les deux pays sont des puissances nucléaires. Non, on ne peut pas faire ça. Et chaque côté comprend ça.
Maintenant, après l'Ukraine, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que vous pensez que Poutine a des ambitions qui vont au-delà de l'Ukraine ou bien c'est juste un message qu'il veut lancer à l'OTAN?
Je crois que dans son âme, il voudrait avoir tous les pays dans l'Europe de l'Est qui étaient avant sous l'influence de l'ancien soviétique. Il voudrait récupérer tous ces gens-là, mais ce sera impossible.
C'était Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans l'actualité en Afrique, le médiateur ouest-africain pour le Mali, le Nigérian Goodluck Jonathan, est à Bamako pour discuter avec la junte militaire du délai de retour à la vie civile. L'ancien président nigérian qui séjourne jeudi et demain vendredi dans la capitale malienne va rencontrer notamment le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta. Un comité technique de la CDAO propose l'organisation d'élections dans un délai de 12 ou 16 mois avec l'aide d'une autorité indépendante de gestion des élections. Au Burkina Faso voisin, une commission mise en place début février par la junte militaire a proposé une transition de 30 mois avant un retour à l'ordre constitutionnel. La commission a aussi proposé la mise en place d'un gouvernement et d'un organe législatif restreint n'excédant pas respectivement 20 et 51 membres. Le rapport un projet de charte et d'agenda de la transition qui a été présenté mercredi au chef de la junte, Paul-Henri Sandaogo Damiba, mais son contenu n'a pas été rendu public. En Centrafrique, les 4 légionnaires de l'armée française opérant sous la bannière de l'ONU, arrêtés il y a 3 jours à Bangui, ont été libérés, a annoncé jeudi l'ONU. L'ONU et la France qui accusent régulièrement le pouvoir de Bangui d'être complices d'une campagne de désinformation anti-française pilotée par Moscou avaient dénoncé une manipulation grossière, mais le parquet de Bangui avait ouvert le lendemain une enquête régulière pour faire la lumière sur les faits. 7 chefs d'État sont réunis aujourd'hui à Kinshasa pour évaluer l'application d'un accord sur la paix, la sécurité et la coopération en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs africains, signé il y a 9 ans à Addis Abeba. Autour de leur hôte congolais, Félix Tshisekedi, 6 autres présidents, dont celui du Burundi, sont présents dans la capitale de la République démocratique du Congo. C'est leur 10e sommet après celui organisé en 2018 à Kampala, la capitale de l'Ouganda. Et puis le pouvoir militaire au Soudan ne doit plus tirer de balles réelles ni de grenades lacrymogènes directement sur les manifestants anti-putsch, a exhorté aujourd'hui l'émissaire de l'ONU pour les droits humains. Adama Dieng a réclamé notamment notamment une enquête indépendante et transparente sur les 82 morts, les 2000 blessés, ainsi que sur les violences sexuelles ayant été commises, l'ONU ayant recensé au moins 13 viols de manifestantes.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Inauguré en grande pompe, le nouveau stade du Sénégal est déjà source de certaines polémiques car les festivités sont intervenues dans une période de fortes tensions, notamment syndicales, et pour certains, les priorités sont ailleurs. Un avis loin de faire l'unanimité à Dakar. De notre correspondant dans la capitale sénégalaise, Seydina Bagay.
À Diamniadio, les infrastructures de grande envergure sortent de terre au fil des ans, mais les villages situés dans la périphérie manquent de tout, notamment d'infrastructures scolaires. Moussa Kanouté, habitant de Diamniadio, estime que l'investissement fait dans le stade aurait pu soulager le secteur éducatif.
L'éducation ne marche plus, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes et les grèves n'en finissent plus, sans oublier les nombreux abris provisoires dans le pays. Et même ici à Diamniadio, pendant ce temps, on prend des dizaines de milliards pour construire un stade alors qu'on a déjà des stades et je pense qu'il aurait été mieux de les réfectionner. Il fallait surtout gérer les problèmes de l'enseignement, faire cesser les grèves, construire des salles de classe pour remplacer les abris provisoires avant de penser à construire ce stade. Les parents d'élèves sont fatigués car leurs progénitures ne peuvent pas suivre les cours convenablement.
Pour Madi Kane, par contre, le sport a valu beaucoup de satisfaction au Sénégal et il est donc normal que le pays dispose enfin d'infrastructures sportives de haut niveau.
Je pense aujourd'hui qu'on peut dire que le Sénégal fait partie des plus grandes nations sportives, sans pour autant exagérer. Donc c'est tout à fait logique qu'on ait des infrastructures de qualité à la hauteur de notre dimension sportive. Et il y aura toujours des critiques de part et d'autre. Mais moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est un besoin, n'est-ce pas? On a beaucoup de gens se sont battus pour qu'il y ait aujourd'hui un stade et le président l'a fait. Donc peut-être qu'il y aura des priorités ailleurs et qu'il faudrait aller se ressourcer peut-être ailleurs. Mais le stade pour moi était un besoin, n'est-ce pas? C'est tous les Sénégalais qui vont en bénéficier.
De son côté, Boubacar Konté estime que la meilleure façon de montrer l'utilité du stade du Sénégal est de relever le défi de l'entretien et de la gestion. Pour lui, un investissement de cette ampleur ne devrait pas être négligé.
Il faut qu'on donne une grande importance à la gestion du stade. J'ai entendu parler d'un budget annuel de 800 millions pour l'entretien du stade. Ça devrait permettre de bien prendre soin de ce joyau et nous exhortons les autorités à en faire une priorité car cet investissement sera nul s'il n'est pas bien pris en charge sur tous les plans.
Le stade du Sénégal, qui a été inauguré ce 22 février 2022, a coûté environ 156 milliards de francs CFA. Pour certains, les priorités sont autre part dans un pays qui a un déficit d'infrastructure, notamment scolaire, mais pour d'autres, c'est une infrastructure plus que nécessaire pour un pays de sport comme le Sénégal. Seydina Bagay à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Gabon, coup dur pour le football du pays, plus de clubs gabonais en Ligue des Champions tant que le championnat n'est pas relancé. C'est une décision de la Confédération africaine de football intervenue la semaine dernière. Des stades sont désertés depuis l'apparition du coronavirus, les footballeurs sont sans championnat et les installations héritées des deux Coupes d'Afrique des Nations sont en train de rouiller. Le reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangenze.
Franck Domingo a dirigé les travaux de construction du stade d'OIM. Dans l'une de ses déclarations, il parlait à l'époque d'un projet promoteur mis à la disposition des populations de la ville située à environ 600 km au nord du Gabon.
Le fait d'avoir mis ce stade situé à 17 km de la ville d'OIM va permettre de développer tous les villages qui sont tout autour parce que à partir de ce stade, nous avons amené de l'eau, de l'électricité.
Une annonce qui n'a pas résisté à la dure réalité des faits. entre la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football organisée par le Gabon en 2017 et maintenant, les rêves des populations vont de la désillusion à la déception. Vincent Essonmungo est un notable de la ville d'Oyem.
Lorsque on fait un stade qui répond aux critères de la CAN, comme celui qu'on est allé faire à 16-17 km là-bas, c'est un gâchis terrible.
La dégradation des stades qui ont abrité les deux CAN du Gabon est devenue un sujet de moquerie et d'autodérision des activistes sur les réseaux sociaux. Naftali Nalik, un jeune influenceur, diffuse une courte vidéo montrant le délabrement avancé des installations du stade de l'amitié sino-gabonais de Libreville.
Le stade est abandonné, Seigneur. On dirait qu'il y a eu la guerre ici. Tous les habitants ont fui pendant des années. Des bouteilles d'eau avec des sachets au sol, des feuilles de manioc. À croire que c'est devenu un restaurant ici.
Faute de réhabilitation et fermée au championnat de football, la nature a repris ses droits sur différents terrains, comme celui de l'ancien complexe omnisports de Libreville. Ici, nous avons rendez-vous avec Rémi Ebanaga, le président de l'Association des footballeurs professionnels du Gabon.
Ça ne sert à rien de financer l'infrastructure juste pour jouer une compétition telle que la CAN. Il faut réfléchir plus loin. C'est de se dire, après la CAN, qu'est-ce que cette infrastructure va faire ? Va nous ramener comme profit, comme développement. C'est-à-dire, il faut tout un projet autour des infrastructures.
Le débat de la rentabilité de l'héritage des Coupes d'Afrique des Nations au Gabon divise l'opinion. Berlek Lekoba est journaliste sportif.
Quand on regarde ce genre d'infrastructures dans d'autres pays, dans d'autres continents, il y a une auto-rentabilité. À travers le naming, c'est une option à explorer pour permettre à ce genre de structure-là de s'auto-rentabiliser en concédant le nom du stade à une entreprise qui pourra peut-être mettre des moyens pour l'entretien du personnel, de l'espace.
Plusieurs fois sollicité sur la réhabilitation de ces infrastructures sportives, les autorités compétentes n'ont donné aucune suite à notre démarche. Libreville, Ismaël Obianzé pour VO Afrique.
Au Ghana, l'urbanisation rapide produit une grande quantité de déchets, tout en alimentant un boom de logements de luxe que le citoyen moyen ne peut s'offrir. Certains entrepreneurs ont ainsi décidé de construire des maisons bon marché à partir de plastique recyclé. Un reportage de Senanou Todd à Accra, relaté par Nathalie Barge.
Le marché immobilier est en plein essor à Accra, où les communautés de luxe continuent de se développer. Les agents immobiliers affirment que le boom des propriétés luxueuses est alimenté par la croissance économique. Maurice Awad est agent immobilier.
Tout a commencé à la fin des années 2000, lorsque le Ghana a découvert le pétrole. À l'époque, c'était presque comme une sorte de ruée vers l'or au Ghana. Donc, beaucoup de développeurs ont décidé que c'était le meilleur moment pour se positionner. Alors, ils ont capitalisé là-dessus en obtenant plusieurs acquisitions et ont commencé à investir.
L'exode rural entraîne une augmentation de la population en ville, où de nombreux Ghanéens se retrouvent en concurrence pour un logement. Le recensement de la population de 2021 a révélé que le pays a besoin de 2 millions de logements supplémentaires. Samuel Amegaïbor, secrétaire de direction de l'Association des promoteurs immobiliers du Ghana.
Le déficit dont nous parlons se situe dans la tranche de revenus moyens à faible et nous ne sommes pas très compétents dans ce domaine. Le promoteur immobilier moyen est incapable de respecter le prix dans cette catégorie de personnes.
Qu'ils vivent dans des logements de luxe ou abordables, les gens sont confrontés à un problème commun, la pollution plastique. Nelson Boatang, directeur de Nelplast, construit des maisons bon marché en briques faites de plastique recyclé. Son petit appartement de 11 000 dollars a été construit avec 13 400 kilos de déchets plastiques.
Nous avançons en production de plastiques.
Nous avons progressé dans la production de briques Lego en plastique pour construire des logements abordables. C'est même plus solide que les briques ordinaires en béton car celles-ci peuvent résister aux zones gorgées d'eau et aux tremblements de terre.
L'entreprise de Nelson mélange des déchets plastiques déchiquetés avec du sable à haute température pour mouler les briques de construction peu coûteuses. Pour réduire encore les coûts et accueillir plus de monde, elle veut construire des immeubles à étages.
So we thought of, no, why don't we develop
Nous avons alors pensé, pourquoi ne pas développer un boulon d'angle de piliers différents qui peut porter 2 ou 3 étages? C'est donc ce sur quoi nous travaillons maintenant.
L'autorité des normes du Ghana affirme que selon les tests, les blocs de construction de Nelplast répondent aux exigences de qualité. Emmanuel Adjete Adjei, un responsable de cette agence d'État.
Ils ont dépassé la résistance à la compression, tout comme les blocs de béton de sable ordinaire. Ainsi, le produit est de bonne qualité et il peut servir le même objectif que le produit traditionnel.
Nelson espère que ces maisons fabriquées à partir de déchets plastiques seront populaires. Plusieurs start-up africaines se sont lancées dans la fabrication des briques et pavés en plastique pour lutter contre la pollution. Une idée qui fait son chemin sur le continent au sein des nouvelles générations.
L'inspiration pour le projet de la Grande Muraille Verte de l'Afrique pour planter des arbres à travers le continent afin d'arrêter l'avancée du désert du Sahara est venue en partie du Burkina Faso. Bien que le projet soit confronté à des défis et à des critiques, il a toujours des champions qui enseignent à la prochaine génération l'importance de planter des arbres. Reportage d'Henry Wilkins, récit Nani Talani.
Dans la savane aride de la campagne du Burkina Faso, depuis des décennies, les populations locales ont compris l'importance de planter des arbres pour protéger leurs moyens de subsistance et retenir l'avancée du désert. Un peu plus qu'Eladj Salifou Ouedraogo, qui a dirigé une entreprise de plantation et d'entretien des célèbres baobabs pendant plus de 40 ans.
Au début, c'était des mangues que je produisais, mais je me suis rendu compte très vite que beaucoup de gens le faisaient déjà. Alors, ayant un baobab à la maison et ayant remarqué que les gens venaient tout le temps à la maison pour demander les feuilles de baobab pour se nourrir, je me suis dit, pourquoi ne pas en produire en grand nombre? Ça aiderait beaucoup les gens.
Les fruits, les feuilles et l'écorce des baobabs sont utilisés par certains Burkinabés comme source de nourriture importante et à des fins médicinales. Mais Thomas Sankara, président du pays de 1983 à 1987 et héros national pour beaucoup au Burkina Faso, envisageait de planter le baobab et toutes sortes d'arbres à travers le continent. Il a dit un jour, pas à pas, arbre par arbre, nous allons créer ce grand parc de 10 millions d'arbres. Certains disent que Sankara a été l'inspiration pour la grande muraille verte financée par l'ONU et la Banque mondiale. Une bande d'arbres projetée de 8000 km de long, s'étendant à travers le bord sud du désert du Sahara, de l'est de l'Afrique à l'ouest. Les bailleurs de fonds affirment que cela aidera également à lutter contre les effets du changement climatique, de la sécheresse, de la famine, des conflits et de la migration. Mais les critiques disent qu'après 15 ans, le projet n'est achevé qu'à 4% avec seulement 10 ans avant sa date limite d'achèvement. Giorgio Bacciano est professeur associé à l'Université de Milan en Italie.
Je vois 3 types de problèmes différents. Un, du point de vue social, évidemment, du point de vue de la mise en œuvre, puis les conséquences écologiques et de faisabilité. Le territoire qui va être planté d'arbres est actuellement une zone de conflit, soit avec des conflits militaires traditionnels, soit avec le terrorisme.
Mais les organisations à but non lucratif disent que le projet fait des progrès et unit les communautés. C'est le cas de Rémi Émeric, directeur exécutif de SOS Sahel.
Nous avons travaillé sur le terrain principalement avec les communautés rurales, réhabilitant les terrains et les forêts et donnant également aux communautés locales les moyens de s'impliquer dans le système économique. Donc, nous croyons vraiment que la Grande Muraille Verte est une des solutions pour la région du Sahel.
Amadou Etraogo, qui reprend l'entreprise familiale, pense que la plantation d'arbres est également essentielle pour l'avenir.
Donc je l'accompagne sur tous les terrains qui est possible, s'il en a besoin. Et il me dit aussi comment il faut entretenir un arbre.
Il a également dit qu'il était important de sauver la nature parce que, selon ses propres termes, sauver la nature, c'est sauver la vie de l'homme.
Voilà, Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Bion à ce micro, Georges Léonard Sagno, Patrick Ndeya Lumumba, Senoumou Keïta pour vous servir. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.